Chapitre 82. Saga est réveillée en sursaut par quelqu'un qui lui braque une lampe de poche sur le visage à travers la lucarne. Elle roule silencieusement sur le sol et rampe jusqu'au mur à côté de l'armoire. Des bruits de pas et des voix lui parviennent depuis le pont supérieur et à travers la coque, puis la porte coulissante à l'arrière s'ouvre.
« On appelle la police si vous sortez pas immédiatement !»
crie un homme. Elle se lève et avance jusqu'à la porte de la cuisine, mais s'arrête dans l'embrasure lorsqu'elle voit deux gardes braquer une lampe de poche sur elle. « Les propriétaires m'ont dit que je pouvais dormir ici. » Essaie-t-elle.
« Non, c'est faux. »«
Regardez, je n'ai rien pris. » poursuit Saga en levant les mains. « J'avais juste besoin de dormir quelques heures. » Les deux hommes entrent dans la cuisine, le faisceau de la lampe de poche toujours braqué sur elle. Le plus âgé a un gros ventre et le crâne rasé. Le plus jeune, des cheveux noirs coiffés en queue de cheval.
« La serrure a été cassée !»
dit le plus âgé.
« C'était un accident, je m'en vais maintenant.
Pourquoi on n'appellerait pas plutôt la police ?»
la défie le plus jeune.
« Parce que je n'ai rien pris.
Parce que c'est quand même considéré comme un cambriolage. » l'interrompt-il.
« J'appelle la police !»
dit le plus âgé en sortant son portable.
« Ne faites pas ça, s'il vous plaît !»
les supplie Saga.
« Pourquoi on serait gentil avec toi ?»«
Arrête, Marco. J'appelle les flics. »«
Donne-nous une raison. »
continue-t-il en s'approchant d'elle. Le jeune tend sa matraque vers elle en la regardant dans les yeux, puis fait glisser l'arme le long de ses hanches et à l'intérieur de ses cuisses. Saga écarte les jambes et voit les yeux du jeune homme s'animer. Puis elle fait un pas rapide en avant et lui assène un violent crochet du droit sur la joue. La matraque tombe sur le sol entre les pieds de Saga. L'homme vacille sur le côté et tombe sur les genoux, la main sur le visage.
« Merde !»
souffle-t-il. Elle se déplace rapidement. Lui assène un coup de pied dans la nuque qui le projette en avant. L'homme plus âgé s'avance vers elle et s'apprête à la frapper dans le bas du dos avec sa matraque. Elle trébuche en avant, mais retrouve l'équilibre en s'agrippant à la table, se retourne et parvient à esquiver l'arme qui passe au-dessus de sa tête. Pendant ce temps, le jeune homme s'est redressé et il est maintenant à quatre pattes. Sa lampe de poche roule sous la table et projette une ellipse de lumière sur le sol. Son portable est posé sur le comptoir de la cuisine. L'écran éclaire la pièce de sa lueur bleutée. Saga s'immobilise. Laisse le plus âgé s'approcher. Il lui frappe la main d'un coup sec et vif. Toutes les combinaisons de boxe sont inscrites en elle comme des mémoires musculaires. Elle n'a pas besoin de réfléchir pour le contrer. Elle lui envoie un crochet du droit et, contrairement au jeu de jambes attendu, fait un grand pas en avant avec son pied droit et lui balance un crochet du gauche. La tête de l'homme est projetée sur le côté. Ses lèvres tremblent et de la salive gicle dans la lumière de la lampe torche. Le garde s'effondre comme un arbre coupé, atterrit sur l'épaule et se frappe la tempe par terre dans un bruit sourd. Saga donne un coup de pied dans les côtes de l'autre homme, puis saisit rapidement le portable sur le comptoir et le porte à son oreille avant même de sortir de la cabine en verre.
« Bonjour, vous êtes bien au central. Vous êtes bien au central !»
répète une femme. Saga met fin à l'appel, puis s'avance sur le pont arrière et voit que les gardiens ont installé une passerelle à partir du quai. Elle l'emprunte, puis la retire. Tout en courant vers la sortie de la marina, elle appelle Randy. Il répond enfin au moment où elle arrive dans un passage sous les voies ferrées.
« Allô ?»
murmure-t-il. « Appelle-moi à ce numéro dans 10 minutes !» Elle raccroche, prend la voie pour piétons. Traverse le parc, passe devant le centre Venergren, traverse la rue et continue dans le parc Vanadislunden. Deux de ses phalanges sont en sang à cause du coup violent qu'elle a reçu. Lorsqu'elle arrive sous un réverbère, elle les regarde et voit qu'elles n'ont pas besoin d'être recousues, mais il faudrait les protéger avec une suture adhésive. Saga continue dans l'obscurité, traverse une pelouse et a déjà atteint l'aire de jeu lorsque Randy la rappelle.
« Oui, » répond-elle en marchant sur le sentier.
« J'ai entendu ce qui s'est passé, »
dit-il à voix basse.
« Je comprends rien. »«
Non, c'est...
Je suis suspendu. Mon numéro était dans le téléphone de Karl Speller. »«
Je suis désolé, »
dit-elle.
« C'est bon, ça va s'arranger. Je suis toujours heureux de ce que tu m'as dit. »«
Linda est à la maison ?»
l'interrompt-elle.
« Elle dort. » »«
Randy, je ne voulais vraiment pas t'entraîner là-dedans. Mais je n'ai personne d'autre que toi. » Et j'ai vraiment besoin d'un endroit où me cacher.
Je vais voir ce que je peux faire. Mais il faut que je te dise qu'une nouvelle carte postale est arrivée. »
Randy se tient debout dans la cuisine sombre, au rez-de-chaussée de la maison de lotissement. Il s'approche de la fenêtre, s'arrête et a l'impression d'entendre des pas sur le sol en lino derrière lui. Il baisse son portable, tire le rideau qui donne sur le jardin sombre et voit dans le reflet de la vitre que le couloir menant à l'escalier derrière lui est vide.
« Comment ça, Demara ?»
demande Saga. Il va s'asseoir dans le petit bureau où sont installés l'ordinateur et la machine à coudre. Une facture d'électricité de Vattenfall et un courrier de l'assurance pour sa Volvo sont posés sur la table à côté de la lampe de bureau. À travers la fenêtre, il voit le jardin avec la terrasse, le parasol et les chaises longues en plastique.
« Oui, elle est arrivée hier. »«
Hier ? Je ne comprends pas. Qui l'a trouvée ?»
demande Saga.
« Elle est arrivée ici, elle est dans notre boîte aux lettres. C'est Linda qui a relevé le courrier, et quand elle a vu que c'était pour toi, elle l'a jeté à la poubelle. Tu ne peux pas rester chez toi !»
l'interrompt-elle.
« Arrête !»
répond-il d'un ton rassurant en sentant un courant d'air froid lui caresser les chevilles.
« Mara, c'est où tu habites ? Elle sait, c'est bon, calme-toi. Je suis sûr qu'elle veut juste communiquer avec toi. »
dit-il en regardant les branches du saule se balancer dans le vent.
C'est écrit quoi sur la carte?
Attends. Il repousse doucement la porte, mais le battant cogne contre le cadre lorsqu'il relâche la poignée. Tard hier soir, Linda et lui se sont disputés à propos de sa suspension et elle lui a lancé qu'elle n'allait pas en plus s'occuper du courrier de Saga Bauer.
Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles?
A-t-il demandé. Linda a finalement avoué avoir jeté une carte postale destinée à Saga. Randy a alors quitté le lit et est allé la chercher dans les ordures. Lorsqu'il est revenu, Linda avait caché son téléphone pour qu'il n'appelle pas Saga. Elle a continué à argumenter et à accuser Randy jusqu'à ce qu'il s'endorme avec un oreiller sur la tête. Au cours de la nuit, Linda a ressorti son téléphone et l'a posé sur sa table de nuit sans rien dire.
« Qu'est-ce qui est écrit ?»
répète Saga. Randy ouvre le tiroir du haut de son bureau, soulève le casier rempli de reçus et sort la carte postale. Le recto est une photo en noir et blanc d'une ville bombardée. Au premier plan, on voit des cendres et des décombres couverts de suie, des incendies brûlent partout, et le ciel est noir de fumée. Plus loin, on aperçoit les vestiges d'anciens bâtiments, les ruines d'une cathédrale et de palais baroques. Au bas de la photo est écrit « Königsberg, 1945 ».
« Il y a aussi un message qui t'est adressé », dit-il en retournant la carte. Le téléphone vissé à l'oreille. Saga marche dans le parc et s'assied sur un banc, sous un grand arbre.
À présent, il ne reste plus que deux balles blanches.
Lee Randy. « Ça, on le sait.
Juna va bientôt rencontrer ma famille », poursuit-il. Et après ça, il y a trois mots russes, et c'est signé « Mark of Omar », avec deux A.
« Ok »,
dit-elle, en comprenant aussitôt l'anagramme.
« Redis-moi ce qui figure au recto.
Une photo de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une ville qui s'appelle Königsberg, presque entièrement détruite.
Tu peux m'envoyer des photos des deux faces ?»«
Oui, bien sûr.
Et ce serait super si tu pouvais trouver ce que les mots russes signifient. »
Je te rappelle dès que possible. Randy s'interrompt lorsque la porte du bureau s'ouvre. Saga entend Linda crier après lui et l'appel est coupé. Le téléphone s'éteint dans sa main. Elle regarde au loin, le long du sentier vers le lampadaire le plus proche. Un cercle de lumière éclaire le bitume, la pelouse et les buissons bas. Au-delà, il fait complètement noir. Saga se souvient de l'appel qu'elle avait reçu de Sven Ove Kranz. Le psychologue de Mara. Il lui avait raconté tout ce que sa patiente lui avait dit. Jurek Walter avait enlevé sa famille. Ils étaient toujours en vie et détenus dans une cellule dans un endroit qui s'appelait peut-être Emoya Vejave. Mais ce lieu n'existe ni en Suède ni en Russie. Mara avait été trouvée par la police alors qu'elle errait au milieu de l'autoroute, près de Skärholmen. Et elle avait été emmenée à l'hôpital Karolinska de Huddinge avant d'être placée à Itereux. À l'époque, Saga était plongée dans une enquête chaotique sur une série de meurtres qui suggéraient que Yurek était toujours en vie. La tempête allait bientôt se muer en ouragan et faire voler sa vie en éclats. Elle avait fini par s'effondrer psychiquement et n'avait jamais eu l'occasion d'approfondir le témoignage du psychologue. Après la mort de Yurek, elle s'était mise en congé maladie. Et Juna avait été suspendue à la suite d'une enquête interne. La police, les maîtres chiens et les médecins légistes avaient continué le travail en examinant chaque point de la constellation complexe de Yurek. De nombreuses tombes avaient été découvertes, mais aucun survivant. Ni elle, ni Juna n'étaient en service lorsqu'il avait été décidé que l'enquête n'était plus prioritaire. Saga pense au dessin représentant des crânes et des squelettes avec les mots « ma famille » qu'elle a trouvé dans la boîte de biscuits cachée par Mara. Elle frissonne, remonte ses jambes sur le banc et pose son menton sur ses genoux pour se réchauffer. Mara veut-elle dire que Juna rencontrera sa famille décédée quand il sera lui-même mort? Ou qu'il rejoindra les restes de sa famille, là où Yurek les a enfermés? Parce qu'ils doivent bien se trouver quelque part. Saga est soudain en alerte. Pour éviter le réseau central du métro, elle décide de marcher jusqu'à Orstaberg, de prendre un train pour Skerholmen et de fouiller le long de l'autoroute, à l'endroit où la police a trouvé Mara.